Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, une question. Aboubakr al-Baghdadi a-t-il été éliminé lors d'une opération menée en Syrie par les Américains ? Précision dans un instant de Valérie Crovin. Élection régionale en Thuringe où l'extrême droite allemande est portée par une figure montante d'Alternative für Deutschland, Björn Höcke, son portrait avec Ludovic Piétenu. La face cachée du globe, signé Nabila Hamel. Deux développements, apaisement politique au Sénégal et la lutte contre le dérèglement climatique dans le monde arabe. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que des commandos américains ont été élitreillés la nuit dernière dans la région d'Idlib, où se trouvaient, selon l'OSDH, des groupes proches de l'organisation État islamique. Plusieurs médias américains vont plus loin. Cette opération aurait mené à la mort de 9 personnes, dont un homme dont l'ADN serait en cours d'examen, un ADN qui serait celui d'Aboubakr al-Baghdadi. Bonjour Valérie Crovin.
Bonjour.
Valérie, de quelles informations disposons-nous en cette mi-journée ?
Alors, ce sont des informations qui ont fuité dans la presse américaine, selon lesquelles un raid a été mené la nuit dernière dans le nord-ouest de la Syrie. Des commandos des forces spéciales américaines sont intervenus près du village de Barisha, c'est dans la province d'Idlib. Selon les médias américains, c'est au cours de ce raid qu'Aboubakr al-Baghdadi est mort. Il s'est suicidé en actionnant sa veste bourrée d'explosifs. Newsweek affirme que des membres de sa famille étaient également présents, deux femmes. Deux épouses de Baghdadi seraient mortes, elles se seraient également suicidées. Le site qui a été visé était placé sous surveillance depuis plusieurs jours et Donald Trump aurait donné son feu vert à cette opération ultra secrète une semaine avant son déclenchement. Des tests ADN, vous le disiez, sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien du chef de l'État islamique, mais selon Newsweek, le département américain de la défense est confiant. Il faut savoir que ce religieux ultra conservateur de 45 ans a été donné pour mort à de nombreuses reprises.
Alors Valérie, dans quelles circonstances et quand Aboubakr al-Baghdadi a-t-il fait irruption ?
Alors, il apparaît au moment de l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Il entre alors dans la résistance islamiste. Il sera ensuite arrêté, puis détenu à la prison d'Abu Ghraib où il va côtoyer d'autres djihadistes. Et libéré faute de preuves, il rejoint ensuite les rangs d'Al-Qaïda en Irak qui va fusionner en 2006 avec d'autres groupes djihadistes pour former l'État islamique dont il prendra la tête après la mort de son prédécesseur tué dans une opération militaire. En juillet 2014, Baghdadi apparaît pour la première fois en public, c'est à la mosquée Al-Nouri de Mossoul, où il proclame le califat. Plus rien ne semble arrêter Daesh qui prend le contrôle de plusieurs villes, dont Raqqa en Syrie. À partir de 2015, son expansion sera freinée par la coalition internationale et Daesh perdra la plupart par la suite, la plupart des territoires qu'il contrôlait. La dernière apparition d'Aboubakr al-Baghdadi remonte à une vidéo de propagande en avril dernier. On le voit assis, barbe longue et arme à portée de main. Il appelait ses partisans à poursuivre le combat.
Merci à vous Valérie Crova pour toutes ces précisions. Et le porte-parole de la Maison Blanche a annoncé ce matin que Donald Trump allait prendre la parole à 14h, heure française. Dans le nord-est syrien, des combats hier entre effectifs des forces démocratiques syriennes et soldats turcs. 15 morts entre les localités de Talamer et Ras al-Ain ont été positionnés des troupes de l'armée syrienne. Deux scrutins ce dimanche en Europe occidentale nous offrent de fiables relevés, deux sondes régionales qui nous permettent de dimensionner l'emprise des extrêmes droites. En Ombrie, dans le centre de l'Italie, un duel entre la Ligue de Matteo Salvini et la gauche, membre de la coalition au pouvoir depuis septembre dernier. Et dans le centre-est de l'Allemagne, la région de Thuringe, un des plus petits Länder, 2 millions d'habitants, où Alternative für Deutschland a bonne presse selon les derniers sondages. L'AfD y est représentée par une figure montante de l'extrême droite allemande, Björn Höcke. Son portrait avec à Berlin Ludovic Piétenu.
C'est un adepte de la provocation. Björn Höcke, un ancien professeur d'histoire fasciné par le Troisième Reich, reconverti dans la politique depuis 5 ans, n'hésite pas à reprendre des mots propres au régime nazi. Les yeux bleu-gris, des cheveux aux reflets argentés, l'homme dirige l'une des plus puissantes fédérations de l'AfD, celle de sa région rurale de Thuringe, et pilote Der Flügel, en allemand, l'aile, la frange la plus populiste, nationaliste et radicale du parti d'extrême droite. Il y a 3 ans à peine, après un discours retentissant, il est menacé d'exclusion réclusion, mais il s'en sort en obtenant même la tête de l'ancienne chef du parti, Frauke Petri. Il a depuis complètement repris le dessus et fait partie du premier cercle des dirigeants. Et ce sont ses idées qui dominent aujourd'hui au sein de l'AfD, la défense de l'identité allemande, une vision positive de l'histoire du pays. Cessons d'être des moutons et soyons des loups, déclare souvent Höcke dans une rhétorique qu'il puisse sans gêne dans le national-socialisme. Il est soutenu par la scène néo-nazie très active dans cette région. Il est ouvertement proche du mouvement islamophobe Pegida en Saxe et du plus récent Tugida du nom du Land de Thuringe, où Björn Höcke, après avoir conquis il y a 5 ans 8 sièges sur les 91 que compte l'Assemblée régionale, devrait doubler son score et sa présence dans cet hémicycle et ainsi asseoir un peu plus son autorité au sein de l'extrême droite allemande pour les années à venir.
Des heures hier soir à Barcelone, les unités anti-émeutes catalanes ont chargé à plusieurs reprises et tiré des balles de mousse pour contenir quelques 10 000 membres des comités de défense de la République, groupuscule qui goûte volontiers aux affrontements. Il s'agissait pour les forces de police d'éviter toute confrontation entre ces groupuscules et les 350 000 manifestants ralliés à la cause indépendantiste mobilisés contre les condamnations de leurs leaders à des peines de prison ferme pour sédition. Ces sentences sont défendues par le pouvoir central et une partie de l'opposition. Le pouvoir central et une partie de l'opposition qui se sont donné rendez-vous en cette mi-journée à Barcelone. Bonjour Juliette Jay.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Juliette, quelles sont les composantes politiques représentées en cette mi-journée ?
Alors aujourd'hui, c'est la société civile catalane, la principale organisation qui convoque les manifestations contre l'indépendance, qui organise la mobilisation. Et après d'âpres négociations, elle a obtenu la participation des trois principaux partis d'opposition, les partis constitutionnalistes et anti-indépendance en Catalogne. On note notamment le Parti populaire pour la droite conservatrice, Ciudadanos pour la droite libérale et le Parti socialiste catalan à gauche. Tous leurs chefs de file sont présents ici sur l'avenue luxueuse du Passage des Gracia, qui est le théâtre des manifestations depuis 15 jours. Ils soutiennent la sentence du tribunal espagnol et l'emprisonnement, évidemment, des dirigeants catalans, qu'on n'appelle pas ici des prisonniers politiques, mais des délinquants. À noter également la présence du parti d'extrême droite nationaliste Vox, qui n'a pas été invité par les organisateurs, mais qui est à savoir qu'il serait tout de même présent. Les dirigeants ont targué qu'ils n'avaient besoin du permis de personne pour se joindre à la mobilisation, et ils ont indiqué qu'ils viendraient saluer tous ces gens de bien, je cite, qui en ces temps difficiles veulent arborer le drapeau espagnol. À noter enfin la présence attendue de l'ex-premier ministre français Manuel Valls, désormais conseiller municipal de Barcelone et à la tête du parti européiste Barcelone pour le changement. Il a appelé ses militants à se mobiliser ici pour la démocratie et la cohabitation pacifique entre l'Espagne et la Catalogne.
Merci à vous, Juliette Jay, en direct de Barcelone. Le vaste remaniement gouvernemental engagé hier par le président chilien, Sebastián Piñera, désamorcera-t-il la lutte citoyenne pour plus d'équité sociale qui a précipité plus d'un million de manifestants dans les rues de la capitale, Santiago, avant-hier? Une certitude, cette lourde crise inspire le peuple argentin, invité aux urnes ce dimanche pour une élection présidentielle que risque de perdre le président sortant, Mauricio Macri, favori de cette consultation, son rival, péroniste, Alberto Fernandez, associé à l'ex-présidente Cristina Kirchner. Caroline Vic est à Buenos Aires.
Les incidents au Chili et en Équateur se sont invités dans la campagne argentine. Pour le parti ouvrier, la crise chilienne est la preuve de l'échec du capitalisme. Cristina Kirchner a également charrié le président qui, durant ces dernières années, n'a cessé de répéter que le modèle économique, social et politique à suivre était celui du Chili. Le gouvernement, lui, a défendu la répression et regretté que la région soit affectée par une conspiration bolivarienne. Mais pour les Argentins qui subissent une dure crise, Chili, Équateur, Argentine, même combat. Liliana, 60 ans.
Il se passe la même chose partout. Il y a une énorme différence entre ceux qui ont un très bon pouvoir d'achat et ceux qui gagnent moins. Ils ont tous la même idéologie. Ils ne gouvernent pas pour la masse, mais pour une minorité.
Malgré une culture de la lutte sociale, cette fois, les Argentins ont choisi une autre voie pour changer les choses. Paula, 46 ans.
Nous, on proteste beaucoup plus, on coupe plus les routes, on sort plus dans la rue, mais on n'a jamais vu des manifestations aussi violentes que celles du Chili cette semaine. On va donner un vote sanction au gouvernement. C'est aussi une manière de provoquer le changement.
Les Argentins qui, comme leurs compatriotes sud-américains, sont fatigués des inégalités et de l'injustice, mais qui, eux, auront l'opportunité d'exprimer leur malaise, non pas dans la rue, mais dans les urnes.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Au Sri Lanka, un rapport parlementaire accuse le président Sirisena de ne pas avoir su empêcher les attaques djihadistes qui ont fait 269 morts et 500 blessés en avril dernier. Ces attentats suicides ont visé le jour de Pâques des églises et des hôtels de luxe, alors que le service de renseignement, directement sous l'autorité du président, disposait en amont d'informations transmises par l'Inde. Le fonds souverain de la Norvège, le plus important du monde, vient de franchir les 10 000 milliards de couronnes. Cela représente la somme de 180 000 euros par habitant. Ce fonds, créé en 1996, sert à faire fructifier les recettes pétrolières du pays pour les générations futures. Au Sénégal, l'heure est à l'apaisement. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est réconcilié il y a quelques semaines avec son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Quelques jours plus tard, le président a gracié Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et opposant du pouvoir. Une politique de la main tendue qui est largement due au chef religieux. Reportage à Dakar de William Delesseux.
Dans les rues de la capitale, beaucoup saluent l'apaisement voulu par le chef de l'État.
C'est une bonne chose. Parce que le pays a besoin de stabilité et des personnes de valeur. À part la politique, il faut d'abord penser au pays. C'est le pays qui est prioritaire.
Nous ne pouvons que l'encourager. Parce que la paix sociale, ça arrange tout le monde. Pourvu que ça dure, pourvu aussi que ça soit sincère.
Cet étudiant n'est pas convaincu.
C'est un peu, pour moi, c'est un peu louche en fait.
C'est un peu factice.
Oui, venir comme ça et venir en bonjour pour se réconcilier comme ça, c'est un peu louche.
Le tout a été rendu possible grâce à la médiation des confréries religieuses. Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute.
Les confréries ont toujours constitué un mode de régulation et de médiation, aussi bien pendant la période coloniale que dans le Sénégal indépendant. Mais le décalage qu'il y a aujourd'hui entre leur mode d'intervention, leur discours et les nouvelles conceptions de la gouvernance chez les jeunes, mais aussi chez l'intelligentsia, pose de sérieux problèmes sur la durabilité d'un tel levier.
Le chef de l'État doit maintenant aller plus loin, d'après certains. Amnistier et rendre éligibles à nouveau Karim Wade et Khalifa Sall, les deux principaux opposants.
Qu'ils viennent d'Égypte comme Yahya Yassine, du Qatar, de Tunisie, du Sultanat d'Oman, d'Irak, du Liban, de Palestine, des citoyens du Moyen-Orient et du Maghreb à l'origine d'initiatives pour la protection de l'environnement étaient vendredi à l'Institut du Monde Arabe pour exposer leurs actions. Shirine El-Massiri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge des forums à Lima et parmi ces personnalités venues témoigner, certaines d'entre elles ont quitté une vie et une carrière à l'étranger pour revenir au pays et y lancer des projets écologiques. C'est le cas de la Libanaise Jocelyne Kedi, rentrée de Hawaï après la crise des déchets dans son pays, ou de l'Irakien Azam El-Wash.
Dans le cas d'Azam El-Wash, après l'invasion américaine en Irak en 2003, sa formation d'ingénieur hydraulique acquise aux États-Unis lui a permis de voir comment préserver la nature, tout l'environnement naturel qui était en danger. Tous les marais salants qui avaient été laissés à l'abandon en Irak et qui ont pu retrouver une certaine vie. Et grâce à l'action de l'ONG Nature Irak, la faune a pu retrouver son environnement naturel dans cette région de l'Est de l'Irak. Malheureusement, dans d'autres pays, c'est un peu plus compliqué. Quand on pense notamment aux actions de Majd Al-Masharawi qui, à travers ses entreprises Green Cake et Sunbox, essaye de donner aux Gazaouis des alternatives pour être fournis en énergie, en électricité, et tout cela sur la bande de Gaza. Et c'est évidemment compliqué au vu du contexte politique, mais elle a une certaine visibilité à l'international et reçoit des soutiens, que ce soit d'autres sociétés civiles ou même d'organisations venant d'autres pays que la Palestine.
Est-ce que ces militants arrivent à mobiliser d'autres personnes dans leur pays?
C'est un peu compliqué, en fait. D'abord, ça commence par le premier cercle, la famille, les amis. Et petit à petit, ils arrivent à engager avec eux d'autres concitoyens. Parfois, leurs actions sont relayées par le gouvernement. C'est le cas de Environment Society of Oman, qui était une ONG à la base et qui est maintenant reconnue et aidée par le ministère de l'Environnement omanais. D'autres actions, donc comme celle de la Libanaise Jocelyne Kedi avec Recycle Lebanon, ont elles aussi un écho à grande échelle, notamment par le biais des réseaux sociaux et d'Internet. Puis ils ont pu fonder au fur et à mesure la première boutique sans plastique du Moyen-Orient, l'EcoSouk Hub.
Entre des pays arabes touchés par l'instabilité politique et d'autres plus riches et plus soucieux de donner la priorité au développement de leurs leurs infrastructures, plusieurs de ces pays traînent encore les pieds dans les grandes conférences internationales sur le climat.
C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a pu voir. Ce qui reste sûr, c'est que il y a toujours dans le monde arabe une pépinière incroyable de personnalités qui mènent des actions étonnantes, courageuses, pour continuer à éveiller les consciences aussi bien des concitoyens, mais surtout des gouvernements.
Shirine El Massiri, je rappelle que vous êtes chargée des forums à l'Institut du monde arabe. Merci à vous. À dimanche prochain.
Et merci à vous, Nabila Hamel. Je vous livre les quatre auteurs finalistes en lice pour le prix Goncourt 2019, officiellement annoncé tout à l'heure au Grand Hôtel de Cabourg. Il s'agit de Jean-Luc Coatalem pour La part du fils, Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Amélie Nothomb pour Soif et Olivier Rollin pour Extérieur Monde. Le prix littéraire sera remis le lundi 4 novembre. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Venus de l'ouest, les pluies faibles gagneront le centre et la Lorraine. Quelques gouttes débordent sur les Charentes, le nord du Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Florent Bujon.